bonsoir à tous, bienvenue dans cet éclairage numéro 8, spécial Mindfake. Alors un épisode garanti sans coupure d'électricité cette fois-ci. Et avec moi ce soir, le merveilleux Arnaud Doucet.
Bonsoir, bonsoir.
La sémillante Actarus.
Bonsoir.
Le formidable Septem.
Bonsoir.
Oh, cette voix. Et il vient nous tenir compagnie à la dernière minute, l'exceptionnel Barberousse.
Exceptionnel, t'es sûr?
Ouais, ouais. Oui, si, merci.
Dis qu'il est amoureux.
Mais jamais trop gentil avec les invités exceptionnels. Ouais.
Ah, c'est un peu mon chef en Queen Novine, donc je vais faire attention à ce que je dis. Alors, ce soir, nous allons vous parler d'un genre assez spécial d'œuvre, le Mindfuck, avec quatre exemples différents. Je commencerai par vous parler du film Memento. Après, qui c'est qui va prendre la suite? C'est Arnaud qui va nous parler de...
Du film Eraserhead de David Lynch.
Ouais, grand moment en perspective.
Oui.
Ensuite, ce sera Actarus qui va nous parler...
Du merveilleux Matrix.
Ah, le merveilleux. Can you read? Et pour terminer, ça va être Septem qui va nous parler de...
D'un livre, Le meurtre de Roger Ackroyd.
Très bien. Alors, une petite définition rapide avant de commencer, même si j'ai un peu foiré la définition, je pense. Donc le Mindfuck, c'est en termes très simples, une œuvre qui prend la tête, dans le sens où le twist final ou certains artifices de narration, par exemple des nombreuses fausses routes, ou par exemple une narration non linéaire, comme on va le voir, ou tout simplement le scénario... qui rendent l'œuvre difficile à comprendre, et donc ça implique vraiment le téléspectateur, ça demande une plus grande concentration qu'une œuvre plus classique, on va dire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec cette définition.
Moi j'ai déjà une question, est-ce que le mindfuck ouais. implique de forniquer avec un esprit?
Non, non, ça c'est...
Non, sinon Ghost...
Ah ouais, pas bête. Ouais, mais pas bête.
Je crois que c'est ton esprit qui est...
Oui, c'est l'esprit de Barberousse. Je me demande pourquoi il est là ce soir en fait. Qu'est-ce que tu fais là?
Barberousse est un mindfuck sur pattes.
Et donc on va commencer avec le premier exemple, et on va commencer avec Memento, et c'est moi qui m'y colle. Alors Memento, vous l'avez tous vu ici ou pas?
Oui.
Oui.
Oh, oui.
Yep. Tout le monde?
On n'a pas peur des spoilers, tu peux y aller.
Oui, bah alors oui, ce sera une émission garantie avec que des spoilers. Alors là... On va y aller. Alors Memento, c'est un thriller américain sorti en 2000 et réalisé par Christopher Nolan, le bien nommé. Alors un habitué des films un petit peu retors, et on retrouve dans ce film Guy Pearce, Carrie-Anne Moss et Joe Pantoliano, entre autres, et que Carrie-Anne Moss et Joe Pantoliano qu'on retrouve dans Matrix, comme par hasard. C'est même pas fait exprès en plus. Alors, je vais vous pitcher le film rapidement avant de vous expliquer sa particularité. En fait, on suit le personnage un personnage du nom de Leonard Shelby, et c'est un homme qui a des troubles de la mémoire suite à un traumatisme crânien et qui cherche à retrouver les assassins de sa femme pour se venger. Et un soir, donc parce qu'un soir, des malfrats se sont invités chez lui et l'ont assommé, et depuis, il vit sans mémoire à court terme. C'est-à-dire qu'il va oublier systématiquement tout ce qu'il a fait dans, je sais pas, c'est dans la demi-heure ou l'heure précédente. Et donc... tout ce qui s'est passé avant son accident, il s'en souvient. Il se souvient très bien de sa femme, de qui il est aussi, mais pas des personnes qu'il a rencontrées depuis son accident. Et c'est là tout le sel du film, en fait. Alors, le truc formidable avec ce film, c'est quand même la narration. Donc, je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus. Et donc, la première fois qu'on le regarde, je sais pas ce que vous en avez pensé, honnêtement, on est vraiment perdu. L'histoire se sépare en deux lignes temporelles. Donc, la première narration, c'est constituée de scènes en couleur. Et donc ces scènes sont montées dans un ordre anti-chronologique. Jusque là, tout le monde a compris, j'espère. Et donc, c'est-à-dire que le film s'ouvre sur la dernière scène de l'histoire. Et en fait, c'est comme si les scènes étaient rangées dans l'ordre alphabétique, mais à l'envers. Donc on nous donne la scène Z, après la Y, après la X, et on remonte jusqu'à A, en fait. Alors maintenant, c'est maintenant qu'il va falloir suivre, parce que entre ces scènes en couleur sont intercalées des scènes en noir et blanc. Et elles sont montées dans l'ordre chronologique. Et donc, un moment dans le film, donc ces deux lignes temporelles se rejoignent. Je sais pas si je suis très clair, parce que c'est compliqué à expliquer.
En fait, en noir et blanc, ce sont des flashbacks, mais qui se passent à l'endroit.
Ouais, c'est pas vraiment des flashbacks, parce qu'au final, ça se rejoint. En fait, les scènes en couleur sont plus axées sur l'enquête pour retrouver le tueur. Mais celles en noir et blanc, c'est... Alors, il est dans un motel tout le long, et on s'intéresse plus à son passé d'avant l'accident. Et donc ce qui est génial dans le film, c'est que tout est fait pour qu'on soit aussi largué que le personnage principal, Lenny, quoi. On sait jamais ce qui s'est passé avant, à cause du montage à l'envers, et on peut jamais pourquoi, on sait jamais pourquoi il est dans tel endroit à tel moment, si on n'a pas vu la scène précédente, en fait. C'est pour ça qu'on est perdu.
En fait, on voit la conséquence avant la cause. On voit
la conséquence de la... Voilà, voilà, exactement. Et donc, on sait jamais si telle personne est digne de confiance ou non, on sait jamais pourquoi, par exemple, il se fait tirer dessus à tel moment, enfin, bref.
Alors, en fait, les scènes en noir et blanc sont la temporalité figée du personnage, dans le sens où
ouais.
C'est ce que lui connaît et ce qu'il ne va pas oublier. Et les scènes en couleur correspondent à l'histoire qui passe et ce que le personnage va oublier. Ces deux timelines sont différentes.
D'accord.
Oui, parce que en fait, oui, la durée d'une scène en couleur, ça correspond à sa capacité de mémorisation maximale, en fait. C'est-à-dire que d'une scène en couleur à une autre, il va avoir tout oublié et donc ça va lui poser des soucis. Par exemple, dans une scène, bon, spoiler, on le voit courir après quelqu'un, mais comme un moment, enfin, il se rend compte, il perd la mémoire, voilà, et il se rend compte que la personne est en train de lui tirer dessus, et là, il va se rendre compte qu'en fait, c'était lui qui était en train de s'enfuir, en fait. Voilà, c'est ça.
Et là, t'es perdu, en tant que spectateur, tu sais plus où t'habites.
Ah oui, ouais, ouais, j'ai du mal au début, j'ai dû le voir 3-4 fois, mais c'est un bonheur, ce film. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en parallèle du film, le héros raconte l'histoire de Sammy Jenkins, parce que dans sa vie d'avant, le héros était un enquêteur dans les assurances. Et donc, son boulot, c'était de voir les fraudeurs, et un jour, il a eu le cas de Sammy Jenkins. Je sais pas si vous vous souvenez bien du film ou pas.
Oui, assez.
Je me rends compte qu'il est trop, moi, en tout cas.
En fait, c'est Sammy Jenkins, c'est une personne qui, suite à un accident de voiture, oublie tout ce qu'il fait chaque quart d'heure. Et ce cas-là va l'aider à comprendre sa maladie et survivre, en fait. Parce que ce qui est marrant, c'est... Enfin, ce qui est marrant. Ce qui est intéressant, c'est que pour survivre, il va se conditionner lui-même, quoi. Il a toujours un appareil photo sur lui parce qu'il va prendre le réflexe de toujours prendre des photos. Par exemple, il va prendre la photo de son hôtel parce que il va voir son hôtel, mais quart d'heure après, il va l'avoir oublié, quoi. Il va prendre une photo de sa voiture, même si on va s'apercevoir qu'il a changé de voiture. Enfin, bref. Même des gens qu'il rencontre, il va prendre une photo et puis il va marquer le nom de la personne, son numéro de téléphone et éventuellement s'il peut lui faire confiance, parce que certaines fois sur les photos, on a des petites annotations. Lui, il t'a aidé, tu peux lui faire confiance. Elle, tu peux pas lui faire confiance. Enfin, bref, il y a plein de trucs comme ça. Et ça renforce, en fait, vraiment le sentiment de solitude. On est vraiment largué, on sait pas à qui faire confiance. Voilà. Et donc, moi, le truc cool, en fait, c'est la fin du film. Alors, ou le début, enfin, c'est compliqué à expliquer. Enfin, vous voyez, c'est une fin ouverte, parce que ça laisse... Nolan aime bien le faire, hein. Ça laisse place à plein d'interprétations possibles. Je sais pas si vous vous souvenez de la fin.
Enfin, le début, oui...
Ouais. Et donc en fait, on se rend compte que tout repose sur un mensonge. En fait, si la personne a menti, alors forcément, il va se passer autre. C'est pas ça qui s'est passé. En fait, il y a plusieurs interprétations possibles, comme la fin d'Inception avec la toupie. Je sais pas si vous en souvenez.
J'allais dire, ouais, est-ce que la toupie.
C'est un peu l'effet papillon pris à l'envers. Un petit détail qui va s'amplifier, ouais, voilà. s'amplifier jusqu'à donner quelque chose de très dramatique.
Et voilà. Et donc la réal est vraiment super bien fichue. J'ai vraiment adoré ce film. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Est-ce que vous l'avez bien aimé ou...
Ah, c'est un très 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 bon film.
Bon, ouais. Arnaud, toi, tu l'as vu? Tu t'en souviens ou pas?
Moi, alors honnêtement, plus t'en parles, plus je me dis qu'il faut que je le revoie.
Ouais, pareil.
Ça, c'est clair.
Non, mais
par
dingue,
contre, si je me souviens très bien au niveau formel, en tout cas, des effets entre le noir et blanc et la couleur,
ouais,
des,
c'est
des
très
photos
bien,
qui sont écrites au dos, enfin c'est... Cette espèce de caméra qui est très très un peu déjà à l'époque un peu à l'épaule dans mes souvenirs et qui bouge beaucoup avec l'acteur principal et ça m'avait marqué déjà à l'époque visuellement. Alors c'est vrai qu'au niveau du scénar il y a vraiment des trous.
Ah oui, non mais le scénar est quand même très compliqué. Il paraît, enfin quand tu le regardes au premier degré c'est simple parce qu'ils ont aussi fait une version du film où ils ont tout monté dans l'ordre chronologique. Et donc c'est vraiment que au final c'est assez simple à comprendre.
Elle est accessible cette version, on peut la trouver. C'est
ouais,
marrant ça.
On le trouve sur les DVD
en version collector, tu as la version montée à l'endroit du film.
Et j'avoue, je l'avais vu sur YouTube traîner, donc j'ai regardé un petit peu les 20 premières minutes, mais ça me manque quand même cruellement de... Ouais, ça me manque.
C'est
pas la
même
chose.
Fiction, quoi. Ouais. S'il est monté dans l'ordre, c'est vachement moins intéressant.
Ouais, voilà, exact. Mais il y a des petits artifices de narration qui sont pas enfin, de réalisation qui sont bien trouvés. La scène qui fait la jonction entre le noir et blanc et la couleur, c'est le personnage qui est en train de... qui a, comment dire, pris une photo avec son Polaroid et qui est en train de développer la photo. Et donc l'image, enfin la couleur, apparaît sur la photo en même temps. Et ça va être le point de jonction. C'est, voilà, c'est plein de petites choses super bien trouvées. Et, voilà.
Et surtout, l'acteur
vraiment,
principal,
film...
Guy Pearce est exceptionnel dans ce rôle-là. Ouais. Et même au niveau physique lui-même, il est vraiment à part. Il a les cheveux décolorés en plus, il est blond en permanence. il lui-même fait ressort complètement du décor. On sent qu'il est quasiment absent de ce film. Il appartient pas. Il appartient pas à cette époque-là. Il vit à côté.
On a l'impression qu'il est vraiment largué, mais à chaque seconde, en fait. Et ouais. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont super. Regardez le film, franchement. Regardez-le deux fois, même trois fois, je pense. Ce sera pas assez pour le comprendre, même. Mais voilà.
C'est un film qui gagne à être vu rien que pour le plaisir de retrouver le lien entre la scène précédente et la fin de la scène qu'on vient de voir. Retrouver comment tout s'enchaîne et essayer de remonter l'histoire, c'est vraiment très intéressant.
Et ça fait partie de ces films qui ont une fanbase énorme, parce que tu vas sur des forums, t'as des topics de 50 pages avec des longs pavés où ils expliquent toutes les théories possibles. Enfin, c'est des trucs de malade, quoi.
Oui, parce que j'imagine que c'est le genre de film où il y a des clés dans tous les coins, des espèces de trucs qui ne sont pas expliqués mais qu'on revoit de temps en temps, quoi.
C'est un petit peu comme dans Fight Club où il y a plein de petits détails, je ne sais pas si vous vous souvenez, en surimpression, certaines scènes où voilà, il y a des petites choses comme ça dans le film aussi. C'est très très intéressant. Voilà.
Le pire, c'est les petits détails que le personnage principal ne peut pas voir, et que toi tu vois peut-être à la deuxième vision, mais que finalement lui ne peut pas voir vu qu'il n'a plus du tout de mémoire immédiate.
Mmh. Ouais, c'est très bien. Franchement, je pense que c'est un de mes films préférés, quoi. Vraiment. Bon, il dure 2 heures, mais... Franchement, ça passe bien.
C'est plus grand chose 2 heures maintenant. C'est bien fait, ça passe vite. Hein.
Ouais, ouais. Ah oui, là, j'ai pas vu le temps passer.
Gros film maintenant, tu sais, on tape dans les 2h30 facile.
Ouais, ouais. Très bien. En fait, j'ai tout dit, ce que j'avais à dire. On va passer à la suite avec monsieur Arnaud Doucet qui va nous parler de Eraserhead.
Donc on va rester dans le cinéma avec Eraserhead.
Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Alors Eraserhead, c'est le premier film de David Lynch qu'il a fait en 1977. C'est un peu, on a souvent dit que c'était son film de sortie d'études, c'était presque ça. Mais c'était son premier long métrage qui avait un petit scénario de 22 pages à l'origine pour faire un peu d'historique. Et dans lequel il y a son acteur, un de ses acteurs fétiches qui est Jack Nance, qui jouera après dans Dune, Blue Velvet, Sailor Lula, Mystère à Twin Peaks et Lost Highway. Donc c'est quelqu'un, ce Jack Nance qui va tenir le rôle principal d'Henry, c'est le personnage qu'on va suivre dans ce film. Alors, tu trouvais que Memento c'était bien, ça allait un peu dans tous les sens, c'était le découpage perdait les gens. Lynch lui prend l'inverse total, il suit un personnage et il le plonge dans un univers où c'est toi qui perds absolument tous tes repères.
Ah oui, je confirme, sur les quelques scènes que j'ai
vues. Parce que Eraserhead, c'est vraiment un film complètement assez louvre-dingue, parce qu'il est déjà en noir et blanc. Même pour l'époque 77, c'était quand même pas nécessairement une évidence. C'était peut-être des questions budgétaires. Mais Lynch lui-même le décrit comme une sorte de poème en style libre.
Alors oui.
Donc quand vous imaginez déjà l'univers de Lynch et qu'il vous dit qu'il est parti en poème style libre, ça laisse déjà la place à vraiment beaucoup de place. Après, dans ce film, il y a énormément de choses. Il y a des scènes hallucinantes de dialogue entre des gens à table autour d'un poulet qui n'a même pas l'air d'être cuit alors qu'ils sont supposés être en train de le manger, des gens qui font la cuisine en mettant des casseroles sur les genoux d'une personne qui est assise là mais qu'on ne verra pas après. Il y a un bébé monstrueux qui ressemble à un énorme spermatozoïde qui en plus va pourrir pas gentiment. Il y a déjà une femme aux joues surdimensionnées qui chante sur une scène devant un grand rideau sur du damier. La lampe de chevet du personnage se transforme en tas de terre avec une plante morte dedans. À la fin, on a même un cheval qui apparaît dans le champ, subrepticement un cheval blanc. Le film est complètement aberrant. Par rapport à ce que tu disais justement sur Memento, qui disait à la deuxième lecture, on peut voir plein d'autres choses, tout ce qui est en plus riche. Ce film qui a l'air complètement cinglé, qui a l'air de partir dans tous les sens, d'avoir des milliers de codes, est absolument génial quand on s'intéresse au travail de David Lynch, parce que finalement, dans ce film, il y a déjà énormément de choses qu'on va retrouver dans tous ses autres films. Monde noir qui est évoqué dans les Twin Peaks, que ce soit les films ou la série, c'est la scène.
Ou la Red Lodge, je sais plus.
Voilà, la Red Lodge, ou le monde noir en français. Il y a plein de choses, on retrouve tous ces énormes, pratiquement tous ces grands tripes, ces tripes de bouffe, tout avec la scène du poulet, les tripes avec les animaux, les personnages bizarres, les effets de transition aussi avec la lumière. Il y a énorme. Ce film est complètement dingue, mais assez paradoxalement, dans l'œuvre de Lynch, ça fait vraiment espèce d'office d'élément fondateur, de truc qui lancerait tout le reste. C'est vraiment très... Ça rend le film encore plus bizarre, du coup, parce que tu te dis, c'est assez étonnant que dès 77, il avait déjà énormément de choses de son univers qui soient prêts à montrer. Faut quand même savoir que ce film n'a jamais connu de sortie en salle en France. Ce qui est... Mais alors qu'il a quand même une... il a une aura absolument géniale autour de tout au même manteau. C'est un film qui a une aura autour de lui. Il est très très prisé par certains cinéastes ou certains amoureux cinéphiles. Il a quand même eu un prix à Avoriaz en 77. Il a eu le prix de l'Antenne d'Or. Alors ne me demandez pas ce que c'est et mention spéciale, parce que Antenne d'Or, je l'ai cherché donc, partout. J'ai été incapable de savoir ce que récompensait exactement ce prix de l'Antenne d'Or à Avoriaz en 77.
Ça a l'air pas mal, cela dit.
Un prix unique alors?
Oui, prix unique. C'est, je suis même pas sûr que l'Antenne d'Or n'existait pas après, n'existera pas avant. Mais donc lui, il l'a eu, voilà. Alors c'est quand même un film qui est très très abouti. Hein. C'est, faut pas croire que ce soit une espèce de bricolage à la con. Bien sûr, il a peu de moyens.
Ça fait très minimaliste dans les peu de scènes que j'ai vues. J'ai l'impression que c'était très minimaliste.
Ah oui, il avait quand même très peu de moyens. En fonction des sources, il a été tourné entre 20 et 100 000 dollars. Ah oui. Ce qui est quand même, pour ce type de film, est très très court. Il y a eu plein d'anecdotes autour de ce tournage, parce que vous imaginez bien que projeter les acteurs dans ce type d'univers, c'est jamais très simple pour leur expliquer comment on jouait. Donc on trouve facilement plein d'anecdotes. Il y en a une particulière, moi, que j'ai retenue au niveau des anecdotes. C'est que c'était la musique originale qui avait été faite pour ce film. Elle avait été jouée autrement et elle a été détournée d'un tas d'autres films. La musique du film, elle a été dédicacée à l'homme de ma planète sœur, on va le traduire littéralement. L'homme sur la planète est joué par Jack Fish, qui est le frère de David Lynch, et sa femme Marie Fish. Voilà, c'est-à-dire jusqu'au bout, le film, tout va être fait comme ça, truc tout bizarre. Il n'expliquera jamais. Alors, pour l'anecdote, on va jusque. Lynch n'explique jamais rien sur ce film. Quand on lui pose des questions, il dit c'est au spectateur de se créer, de comprendre, de voir ce qu'il a envie de voir.
C'est génial ça. Donc, j'adore ce genre de démarche.
Voilà, ah oui, ça c'est vraiment étonnant. Et comme je dis, c'est vraiment étonnant parce qu'au final, quand on voit le personnage, quand on voit ce qu'il fait après, ce film c'est vraiment. C'est lui dès le départ. C'est juste. Moi je trouve ça vraiment étonnant quoi. Donc voilà.
C'est vraiment fondateur de tout ce qu'il a pu faire. Même quand on regarde en musique, il a un univers complètement barré. Hein, je sais pas si tu as déjà écouté quelques chansons qu'il a faites.
Ah oui, puis il travaille pas avec n'importe qui, avec des gens comme... moi, une de celles qui m'a le plus retourné, c'est celle de Twin Peaks. Le film ou le reste, parce que c'est Angelo... J'ai écorché son nom, je l'ai pas sous les yeux. Angelo Balami, un nom comme ça, qui a fait la musique de Twin Peaks, enfin, des Twin Peaks. Et c'est vraiment... c'est cette manière de traiter la musique qui te rend à la fois, qui te rend dans le film, qui te met en confiance et qui après va te retourner, te mettre... c'est vraiment une adéquation étonnante au niveau de l'ambiance, pas vraiment au niveau de la rythmique du visuel, mais au niveau de l'ambiance que met en place David Lynch. Et c'est absolument génial. Enfin, bon, il fait la même chose dans ce film-là, mais on est plus près d'une musique de style un peu concrète, comme on pouvait dire à l'époque, avec des effets, des espèces de blobs, de nappes musicale ou sonore,
très éthéré.
Voilà. Mais on est dans du David Lynch, quoi. Il y a pas. C'est vraiment hallucinant. Après, bon, l'histoire, elle est quand même très 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 anecdotique.
Oui, l'histoire, du film, parce que
Alors l'histoire du film, c'est Henri, donc le personnage qui tombe amoureux de sa voisine, qui donc finit par vivre avec elle. Et qui finit par avoir un bébé, qui est un bébé monstrueux et qui va tomber malade et qui va mourir, mais dit comme ça, ça paraît juste un énorme drame qui pourrait être tourné par, je sais pas moi, par n'importe quel réalisateur un peu en anglais.
Ça fait un peu penser aux prémices d'Elephant Man, du coup.
C'est du noir et blanc.
Ouais.
Il y a un traitement de la couleur des blancs, enfin, pardon, il y a un traitement des blancs et des noirs, des jeux des contrastes qui fait, qui est déjà très dans l'esprit de ce qu'il fera après pour quand il va traiter la difformité avec Elephant Man. Et voilà, alors, l'histoire dite comme ça, ça va, mais s'entremêle l'apparition de personnages. D'éléments secondaires, l'univers, la réalité dans laquelle on le voit évoluer au début à l'extérieur de son appartement, le personnage principal semble être post-apocalyptique. Rien n'a l'air normal. On identifie tous les éléments du décor, mais rien n'a l'air à sa place ou rien n'a l'air normal. C'est vraiment du Lynch. C'est du Lynch, y a pas à dire.
Ouais, ouais.
Quand on aperçoit l'enfant pour la première fois, c'est vraiment une espèce de fœtus d'agneau qui est un peu déformé en plus, donc c'est voilà, c'est on... on est vraiment dans quelque chose où plus le film avance, plus il génère un sentiment parfois de malaise, parfois de rire, mais on sait jamais sur quel pied prendre ce qu'on voit. C'est vraiment un film complètement barré. Il y a pas de, et c'est mais qui donne envie de le voir, hein, qui donne envie d'aller au bout, parce qu'on se dit ça peut pas être comme ça tout le long. Pourquoi il fait ça? On a envie de réponse et on n'en a pas. On n'en a aucune. Là, c'est clairement, on n'en a aucune. L'histoire se finit, le bébé. Je crois que le bébé meurt plus ou moins, le personnage a l'air de devenir fou, on voit la scène du personnage dans la lune à la fin, et c'est tout. Et si on a un plan blanc de la jeune femme qui se jette dans les bras la femme qui voyait en rêve avec les joues surdimensionnées, qui était dans ce fameux sur cette scène de théâtre qui chante la chanson, qui va se jeter dans les bras du personnage, et c'est tout. Donc voilà, on n'a pas de réponse. Contrairement à ce que tu disais à propos de Nolan, on n'a même pas un début de réponse, on a une conclusion qui est dans la continuité des autres éléments.
Bah c'est vrai qu'il fait partie de ces réals qui ont un univers mais complètement marqué, un peu comme Tim Burton. Tim Burton, c'est peut-être moins.
Disons que lui, c'est
moins.
pas commis dans des trucs commerciaux récemment.
Plus sombre, ouais. Mais je sais pas ce qui passe par la tête, quel a été le déclic pour avoir un univers comme ça dans la tête de David Lynch. Je sais pas si ça vient de l'enfance, je sais pas du tout d'où ça vient en fait.
Honnêtement, tout à l'heure tu parlais de musique, enfin de sa musique, et je pense que tu parlais aussi de son album qui est sorti il y a pas longtemps.
Oui.
Et quand t'écoutes son album, moi je l'ai écouté, je l'ai chroniqué je crois aussi, c'est même là c'est très torturé, hein. Il y a de la reverb
Ouais.
partout, ça passe, c'est très effrayant, et quand ça se ressent en plus dans la musique, je dis que vraiment il y a dû se passer quelque chose dans son cerveau avant. Parce que c'est très très bizarre, hein. Pour faire de la musique inquiétante qui soit quand même de la musique qui pas de film, vraiment des morceaux de 3 minutes, etc. Faut vraiment avoir quelque chose de très spécial dans le cerveau, hein, parce que c'est très dur à faire.
Bah, le compositeur de Pour Twin Peaks, c'est Angelo Badalamenti. Je l'ai retrouvé entre-temps.
Ah oui, et le générique de
De...
Twin Peaks, c'est vraiment exceptionnel.
Voilà, et pour reprendre ce que tu disais, c'est vrai alors moi, j'adore son album, honnêtement. C'est vrai qu'il te plonge dans un univers, bah, comme ses films, il te plonge dans des univers très originaux. Alors, honnêtement, soit t'es client et tu prends et ça te fait plaisir et tu passes un
Si t'adhères
moment.
pas,
Voilà, mais si t'adhères pas,
ouais.
par contre, t'adhères pas du tout. Hein. Je crois pas que
Non,
ce
non, non,
soit
non.
quelqu'un avec
Il n'y a
qui
pas de
il a.
demi-mesure,
Voilà.
je pense, avec Lynch quand même.
C'est exactement ça. Allez, un dernier petit mindfuck quand même,
Ouais.
pour le. Pas à propos de ce film. Ce film, quand il a été distribué en France pour les rares fois où il a été montré dans des festivals, il était jaquetté sous le nom de Labyrinth Man.
Ça
C'est-à-dire que le titre anglais,
m'étonne.
il leur plaisait pas, l'effaceur de tête. La tête effaceuse, pardon. Du coup, en France, on lui a redonné un nom, mais anglais. On n'a même pas francisé, on a fait Labyrinth Man. Voilà, c'était vraiment le petit détail qui va encore bien avec le reste. Tiens.
Ouais, pour le coup, tout le monde l'a vu ce film-là ou pas
Ah,
ici?
pas du tout.
J'avoue.
Pas du tout.
Alors, ouais, je pense que je vais le regarder.
Alors vraiment, je vous invite à le voir, à le prendre le temps de le
Je pense que je vais
regarder.
le regarder demain soir en rentrant.
Il est relativement facilement disponible en DVD à droite ou à gauche. Et
Très bien.
il n'y a pas besoin de. Si vous le trouvez en VOST, c'est bien, hein, mais il n'y a pas beaucoup de problématiques autour des dialogues sur ce film.
Non, ça n'a pas l'air d'être un film où ça discute beaucoup.
Voilà.
Très bien. Ce sera tout?
Bah oui, ça pour moi, je pense que ça. J'espère que ça a donné envie de le voir au moins, parce que
Ouais, moi je vais le regarder.
je pense qu'il s'est. Peut-être pas, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout, mais au moins se faire une idée de ce que
Ouais.
quelqu'un comme lui, au moment de son premier film, peut déjà proposer comme univers. Et comme barré.
Très bien. On va passer à la suite parce que le temps tourne, mine de rien, et ça va être enfin, Actaris va être contente, on va parler de Matrix.
Donc Matrix, c'est la référence de science-fiction, en tout cas la mienne, ça c'est évident. Déjà parce que bah, c'est une référence philosophique, et pourquoi, voilà, pourquoi on pourrait, je sais pas, lui attribuer l'étiquette de mindfuck? Bah, je pense déjà parce que bah, c'est un film à réalité multiple. Donc il trimballe vraiment son spectateur dans un espèce de labyrinthe, lui aussi. Mais là, c'est un labyrinthe de réalités différentes. Et selon certaines scènes, on ne sait pas forcément dans laquelle on se situe. Qu'on peut trouver un très très grand nombre d'analyses, en fait. On peut trouver donc des analyses donc philosophiques, des analyses scientifiques, enfin plutôt de SF, des analyses religieuses, des analyses sociologiques, enfin il y a tout dedans, il y a la normalisation, il y a un très grand nombre de philosophes, il y a Platon, Descartes, enfin bref, il y a un très très grand nombre d'analyses, voilà. Donc pour ces deux raisons-là, je trouve que bah, je trouve qu'il est bien à sa place dans The Mindfuck. Donc du coup, les réalités multiples, voilà, il y en a vraiment pas mal. On a la réalité de la matrice, on a la réalité, enfin la réalité tout court, j'aimerais dire, qui n'en est pas une de toute façon, parce que bah, nos sens, nous aussi, sont autant d'interfaces que finalement les câbles auxquels nous sommes branchés dans la matrice, tant qu'on y est. On a aussi la réalité qu'on peut trouver dans le monde des rêves, et ça on le voit en fait pas mal chez Neo, parce que c'est quand même un personnage, enfin pas que chez Neo, chez Thomas Anderson avant qu'il devienne Neo, parce qu'on le voit souvent somnoler, cette espèce de flemmard, on le voit souvent rêver, on le voit donc souvent ailleurs. En plus, il deal de la drogue, donc effectivement, il propose une autre forme de perception de la réalité à des personnes, donc enfin à d'autres personnes. Donc on est vraiment voilà, sur une explosion de réalité possible dans ce film-là, et donc de plans complètement différents en fonction de ces réalités-là. Et c'est sans doute ce qui peut perdre le téléspectateur, si jamais, enfin pardon, le spectateur tout court, si jamais il ne le voit, enfin il le voit pour la première fois, pourquoi pas. Donc c'est aussi un film qu'il faut voir sans doute au moins deux ou trois fois, je pense, avant d'en saisir la plupart des sens, parce qu'on peut en saisir très rapidement le sens, la fin est tout à fait prévisible, enfin ça y a aucun problème, mais c'est pas le plus intéressant, c'est pas du tout l'objectif, c'est véritablement en fait tout le cheminement qui est censé réveiller lui aussi le spectateur, qui est censé lui ouvrir les yeux comme on ouvre les yeux à Neo à travers voilà à travers la démonstration de ce qu'était sa réalité. Au niveau des interprétations, voilà, c'est peut-être ce qui fait le plus un mindfuck, parce que c'est pas forcément les réalités multiples qui nous perdent, c'est vraiment ce qu'on en fait, vraiment ce qu'on comprend d'elles. Et là-dessus, on est vraiment mais dans une machine de guerre de philosophie. Il y a absolument toutes les notions philosophiques possibles. On parle de vérité, ça c'est évident, donc d'illusion. On parle de liberté énormément parce que Neo est est vraiment l'humain type qui cherche à renier l'idée de destin et à surtout pas se laisser aller au déterminisme. Il refuse ce qu'on lui prédit, il refuse ce que l'oracle essaie de lui dire, et d'ailleurs elle le manipule de cette manière-là pour qu'il fasse exactement ce qu'elle voudrait qu'il fasse. Donc voilà, on voit vraiment que c'est un personnage qui lutte dans son existence, et en ça il est typiquement humain. Donc c'est vraiment un personnage dans lequel on arrive à s'identifier facilement. Puis on n'a pas que ça, on a vraiment voilà la fameuse question que Nietzsche posait aussi, doit-on préférer c'était l'illusion réconfortante au bonheur qui enfin pardon à la vérité qui dérange. En gros, est-ce que je préfère pas rester voilà, c'est exactement
la
ça.
Plus bleu ou la plus rouge.
C'est exactement ça. J'ai le choix à faire entre une illusion qui est finalement proche de la joie et d'un plaisir futile et superficiel, au bonheur de la satisfaction intellectuelle, de la connaissance de la vérité. Donc voilà, on a vraiment de gros gros débats philosophiques, et au milieu de ça, ben, on a une belle vision sociologique avec coucou les gars, réveillez-vous, vous êtes dans une dystopie, et en fait ça s'adresse pas du tout qu'à Neo, ça s'adresse au spectateur à fond. On est vraiment dans l'espèce de clin d'œil, en plus dans un clin d'œil à Big Brother de George Orwell, quand l'agent dit à Neo, nous avons l'œil sur vous depuis un moment déjà, vous avez une double vie, etc. On est vraiment voilà, dans du clin d'œil philosophique omniprésent, en fait. Le clin d'œil religieux aussi, avec Sion qui fait référence à la montagne qu'on a à Jérusalem. Enfin, voilà, l'élu, la Trinité, l'unique, etc. Mon petit Jésus perso, c'est ce que lui dit la personne qui lui achète de la drogue au tout début, qui lui achète la mescaline. Voilà, on est vraiment dans une multitude d'analyses qui sont tout aussi passionnantes et tout aussi intriquées, parce qu'on peut absolument pas regarder ce film en se disant allez, je vais analyser que ce qu'il y a de philosophique ou que ce qu'il y a de religieux ou que ce qu'il y a de sociologique. Chacune de ces interprétations est nécessaire aux autres. On en a vraiment cette impression-là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Ouais, on a une grosse critique du conformisme, puisque tant qu'on est dans la socio, On a Heidegger avec le principe de l'agent, le fameux « on » qui est une grosse dictature. Celui qui est habillé de la même façon que les autres, ses lunettes noires, son petit costard, etc. Et puis son nom, quoi, John Smith. Enfin, on peut pas faire... Non mais... Voilà, on peut pas faire plus anonyme, c'est pas possible. Donc on... Voilà, ça fourmille vraiment de possibilités. De possibilités de réalité, de possibilités d'analyse. Et c'est en ça que, oui, c'est sans doute un mindfuck, sans problème.
Tu penses qu'on avait déjà tout... Enfin, qu'en écrivant ça, ils avaient déjà tout pensé à ça, ou c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert a posteriori?
Ben, honnêtement, ces frangins-là sont quand même assez puissants, ouais. Donc je pense qu'ils avaient déjà prévu pas mal de choses. Et c'est pas un hasard, ils n'ont pas pu tomber par hasard sur des références aussi, ouais. Aussi pointues, et surtout sur des répliques qui sont copiées-collées de la caverne de Platon. L'allégorie de la caverne de Platon. On a carrément les mêmes mots que la traduction, excusez-moi, de l'allégorie de la caverne de Platon. On a carrément des citations de Socrate. Sur la porte, voilà, tout simplement. Sur la porte de l'oracle, vous avez le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate, qui est d'ailleurs tronqué, hein, parce que c'est « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est dommage qu'il n'y ait pas la suite, parce que c'est vraiment nécessaire, en fait, à cette citation. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, voilà, on a la référence au cerveau dans une cuve d'Hilary Putnam. C'est un philosophe assez récent qui vient des US, si je me trompe pas, avec cette idée que finalement, on n'a absolument aucune preuve, comme le malin génie de Descartes, qu'on n'est pas tous des cerveaux, qu'on n'a pas de corps finalement, qu'on n'a pas d'autres interfaces, qu'on n'a pas d'interface tout court, qu'on n'est que des cerveaux plongés dans des cuves, branchés entre nous par des nano-électrodes, branchés à un super calculateur qui, lui, simule tout simplement nos perceptions. Et donc nous fait croire que ce que nous voyons est vrai. Alors, le pourquoi, à la limite, on s'en fout. Avec le malin génie, on s'en foutait aussi. Tout ce qui nous intéressait, c'était de se dire qu'après tout, on n'avait aucun moyen de vérifier si c'était pas le cas. Qu'on n'était pas des cerveaux dans une cuve ou qu'on n'était pas manipulé par un malin génie. Enfin, voilà, l'hypothèse qu'il a...
Ah, excuse-moi, ça me fait juste penser au syndrome, vous avez tous vu The Truman Show.
Ouais.
Ça me fait penser au syndrome de Truman Show, de gens qui sont persuadés être enfermés dans une bulle, par exemple, des personnes qui sont...
Attends, Truman, il n'est pas persuadé.
Oui, voilà, il ne sait pas, voilà. Il découvre ça après, mais... Ce sont ces gens qui sont, après avoir vu le film, ou même après avoir vu Matrix, qui sont persuadés d'être un élu, devoir faire quelque chose pour réveiller les consciences, en fait.
D'ailleurs, puisque tu parlais des références, au niveau du mindfuck, je suis assez surpris que tu n'aies pas parlé de la première qu'évoque souvent les frères Wachowski. Enfin, on dit...
Maintenant, Anna, oui.
Qui est Alice au pays des... Alice, ouais.
C'était Larry, avant.
C'était pas le cas, ouais. Au moment du premier Matrix. Oui. Et donc, qui est Alice au pays des merveilles, dans le style
beaucoup de
mindfuck,
carrément.
Il est pas mal non plus,
celui-là. Ah oui.
Parce qu'il l'évoque souvent en faisant la référence au White Rabbit.
Mais, carrément.
Et au travers le miroir, qui est aussi. D'ailleurs, dans le style bouquin What the Fuck, Alice, la suite d'Alice qui s'intitule De l'autre côté du miroir est bien, bien, bien aussi.
Ouais, c'est vrai, c'est un gros oubli. Carrément.
Moi, il y a deux choses. Tu parlais de Platon, et à part de mémoire, on retrouve énormément de noms latins ou grecs dans le film. Et on parlait un peu de Trinity, et je suis en train de rechercher, on retrouve soit les moires, soit les parcs, les trois divinités qui s'occupent du fil du destin des hommes. Et elles sont citées elles-mêmes dans Platon, on tourne autour de cette mythologie grecque et romaine d'ailleurs, et on disait que... Frères et sœurs Wachowski n'auraient pas pu faire ça au hasard. Je pense que c'est complètement vrai. Ils ont été reprendre tout ce qui était à la base de la philosophie, même de la mythologie grecque en général, et en ont fait un conte moderne, emballé dans du kung-fu et des effets spéciaux qu'on peut voir au premier degré. Mais il y a un deuxième sens où il faut passer outre, comme justement le mythe de la caverne de Platon, pour voir ce qui se passe.
C'est vrai que le principe de l'action et les effets spéciaux est vraiment au service, mais vraiment au service de l'œil de l'esprit. C'est quasiment le plus important, en fait. Toute cette action, elle est là justement pour faire oublier l'action. C'est pas du tout, une manière de satisfaire une part des spectateurs que de mettre de l'action. C'est vraiment au service de la philosophie. C'est un moyen justement de nous permettre de faire abstraction de l'action. parce que justement on comprend les possibilités de l'esprit à travers ces actions-là. Et c'est absolument fabuleux, enfin, je trouve qu'ils sont eux-mêmes de très bons interprètes de la philosophie, ces frangins-là, ces frères et sœurs-là de toute façon, parce qu'ils ont réussi à, comment dire, vraiment, vraiment utiliser ce qui semblait être... enfin, qui semblait être de la dentelle ou de la superficialité, pour quelque chose de beaucoup plus profond, la compréhension de l'esprit, et pas du tout le ravissement des yeux. Et ça, c'est... Enfin, je peux que les applaudir, parce qu'ils nous ont fait véritablement quelque chose de plus philosophique qu'un bouquin en soi. Heureusement que le film lui-même, finalement, ne fait pas que nous parler avec des mots de thèse philosophique, avec justement la visualisation... Bah, par exemple, je ne sais plus comment s'appelle cette technique, et ça c'est vraiment dommage, parce que j'aurais dû préparer ça, mais je ne l'ai pas fait. Bref, quand on voit Neo qui saute et qui donne un coup de pied à un mec, ouais, et on peut tourner autour, voilà. on a vraiment quelque chose d'ultra philosophique, dans le sens où on arrive à arrêter le temps, ce qui est tout à fait impossible pour nous humains, parce que notre condition humaine ne nous le permet pas, et on arrive donc du coup à avoir cette capacité grâce à ce film. Donc on dépasse finalement ce que nos capacités matérielles, enfin corporelles si on est matérialiste, nous permettent, pour que l'esprit, lui, ait la capacité de saisir chaque facette en fait de la réalité au même moment, ce qui est tout à fait impossible. Et ils mettent vraiment donc toutes les techniques cinématographiques de leur époque au service de la philosophie. Ça, c'est on peut que les applaudir là-dessus, vraiment.
C'est vrai qu'il y a une belle adéquation entre
énormément
dans ce premier, oui, Matrix. Parce que c'est pareil, le coup de tout à l'heure, tu évoquais 84, le coup où quand il est pas encore conscient et qu'il est encore le nom du personnage avant de Keanu Reeves, avant qu'il soit dans la Matrix, qui sort Thomas Anderson, oui, Monsieur Anderson, quand ils lui font l'image avec la bouche muette, ouais, c'est super frappant, et ça rappelle à plein d'autres éléments visuels que de la culture occidentale sur le côté baïonnage et tout ça. C'est, disons, ils ont vraiment trouvé une belle façon de faire une mise en forme autour de leurs propos philosophiques.
Oui, tout à fait.
Le seul truc qu'ils n'avaient pas prévu, finalement, c'était Matrix 2 et Matrix 3, en fait.
Mais ils ont fait... Je ne connais pas assez les Wachowski. Ils ont fait quoi
Récemment... Non.
Récemment, Cloud Atlas.
Voilà, Cloud Atlas récemment.
Et on retrouve aussi ses propos philosophiques, toute cette recherche.
Ouais. Cloud Atlas, ouais, dans Speed Racer, qui est entre Révolution et Cloud Atlas, c'est pas tout à fait philosophique, Speed Racer.
Cloud Atlas, qu'il a d'intéressant, bon, je l'ai vu qu'une fois aussi, et j'ai pas pris le temps de l'analyser comme je le fais, enfin, comme j'aurais dû le faire. Ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il dépasse le déterminisme scientifique. On n'est plus dans un cause à effet habituel et un truc super basique d'une temporalité passé présent linéaire, quoi. Voilà, on n'est pas du tout dans la linéarité.
Alors encore une petite chose, j'ai l'impression que dans Matrix, au premier degré, on ne trouve pas d'évocation de la religion. J'ai pas souvenir de personnes croyantes. J'ai l'impression qu'on a une société très très sans but, sans complètement perdue, alors que les personnages qu'on va suivre, quand on fouille un peu, sont des représentations bibliques, sont quelque chose de très 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 religieux. Ils redonnent un sens à certaines personnes.
Bon, déjà oui, avec Morpheus et sa foi complètement aveugle, aucun problème. Par contre, à l'intérieur de la matrice, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que le personnage qui achète donc la mescaline à Thomas Anderson au tout début, il lui dit Alléluia, déjà Alléluia, tu es mon petit Jésus perso. Et ça, cette réplique-là, elle affirme effectivement que dans la matrice, il y a des formes de religion, et sans doute, bah, comme par hasard, les mêmes que les nôtres. Et c'est pas un hasard du tout, hein, c'est parce qu'ils s'amusent à nous faire des clins d'œil en permanence en nous disant réveillez-vous tous, vous êtes exactement comme ces gens-là dans la matrice, vous êtes bâillonnés, vous êtes enfermés, on vous illusionne, on vous manipule, etc. etc. Donc non, même dans la matrice a sans doute des programmes qui ont mis en place toutes sortes de religions pour qu'on déploie notre énergie et qu'ils en récoltent encore plus, il n'y a pas de problème.
C'est vrai qu'à ce niveau-là, dans la matrice, je trouve que les dialogues sont parfois un souillat plus... moins évident, plus travaillé, plus fouillé dans cette logique-là de double sens.
Sans doute. Sans doute. On est beaucoup plus dans l'explicite, dans le monde réel, avec Morpheus. Oui, sans doute.
Ça mérite de s'y attarder, quand même.
Mais il faudrait passer des heures là-dessus. En fait, Il y a un très très grand nombre de répliques qui sont absolument génialissimes dans la première rencontre entre Morpheus et Néo. On a exactement les mêmes étapes que, encore une fois, désolé, que l'allégorie de la caverne de Platon. C'est vraiment le principe du prisonnier. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Ah, génial, les chaînes des prisonniers de la caverne. Il y a des jeux merveilleux entre les ombres, les reflets. On joue beaucoup avec le personnage et l'image du personnage. On joue beaucoup avec les interfaces aussi, pour nous signifier que, bah, comme Descartes et Platon, nos sens ne sont que des interfaces, donc des médiateurs entre nous, notre esprit, plutôt notre esprit, et la réalité. Et ce sont ces interfaces-là qui, à la fois, modèlent notre façon de percevoir la réalité, donc on ne perçoit pas la réalité, on perçoit notre réalité, et en plus de ça, il suffit d'y rajouter l'interprétation, la culture, etc., etc. Donc on est vraiment sur du micro détail partout, que ce soit dans les répliques ou que ce soit dans les images. Même le principe du miroir est monstrueux quand Néo avale la pilule et pose le doigt sur le miroir et qu'il se fait recouvrir par le miroir. On n'est plus dans l'idée qu'il passe à travers son image. C'est son image qui vient à sa place. Enfin, c'est magnifique de sens. On n'est plus du tout dans quelque chose de direct. On est dans quelque chose d'intérieur. Et oui, il y a beaucoup plus de sens que simplement quelques schémas.
T'as quand même pas l'impression que ce film, finalement, il est un petit peu masqué par son aspect esthétique et visuel, qui est super fort aussi, qui est très très réussi.
J'en ai pas l'impression parce que, mais malheureusement, j'ai un regard biaisé, donc forcément, ça va pas aider. Parce que justement, il y a des répliques philosophiques qui font foi de sa qualité. Donc, non. J'ai peur que ça puisse le masquer pour un public non averti, c'est possible, mais il y a quand même des dialogues à la limite. Voilà. S'il y en a qui sont pas capables d'analyser l'esthétique, il y a quand même des mots et des citations qui ont beaucoup de force philosophique. Donc je pense que quelque part, le fameux connais-toi toi-même, ça peut quand même faire réfléchir certains. Je pense que toute la première rencontre Morpheus, Néo aussi, peut en faire réfléchir certains. Mais qu'est-ce que le réel? Qu'est-ce que ta définition du réel? Si tu crois que c'est ce que tu peux toucher, sentir, etc., alors le réel n'est qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. C'est sympa parce qu'il y a quand même pas mal d'aspects réalistes et courants, enfin assez courants, on va dire, dans la culture. Donc je pense que beaucoup de monde peut être capable d'accéder à des analyses intéressantes. Enfin, j'espère. Mais oui, c'est possible que ça parasite un peu. Ça m'embête. Et du coup, donc, on parle pas du tout de Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, parce que ça, c'est du gros scandale.
Juste une petite anecdote, j'ai trouvé ça assez drôle. Vous saviez qui devait jouer à la place d'Hugo Weaving, donc qui joue l'agent Smith? Vous saviez qui devait jouer l'agent Smith? Jean Reno.
Oh merde.
Mais il était occupé sur Godzilla, donc avec le succès qu'on...
C'est
il
a dommage fait
faire avec le succès qu'on lui a connu. Et vous saviez qui devait jouer Neo à la place de King
Will Reed? Smith.
Will Smith, ouais. Et lui, il était occupé sur Wild Wild West, avec le succès qu'on lui a connu aussi, ce magnifique film.
Ouais, mais il n'aurait pas pu chanter la chanson de Matrix, donc...
Faut imaginer ce que ça aurait donné Will Smith qui chante la chanson de Matrix.
Elle est parfaite comme ça.
Entre un prodigy et un...
Et d'ailleurs, voilà, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Je tu m'enlèves les mots de la bouche.
Très bien. Disons qu'on a bien discuté là-dessus. Hein. C'est super intéressant.
Mais encore, il manque des milliards de choses. C'est vraiment dommage. On peut pas tout faire, mais bon, c'est pas grave. Je suis frustrée.
Pourquoi on n'a pas évoqué le côté un peu informatique et tout le côté crypto qui est caché?
C'est
vrai,
ça c'est extrêmement important aussi, le fait que ce soit un hacker, c'est pas du tout un hasard. Parce qu'il il travaille dans une boîte d'informatique, voilà, il a un petit boulot à la con dans sa petite case, dans cette espèce de mini open space bizarroïde et très froid d'ailleurs. Et à côté de ça, il est hacker, donc voilà, encore une fois, il a une double vie.
Encore un symbole.
Ouais, voilà, il a une double vie et le fait qu'il soit hacker justement, comme par hasard, lui permet d'avoir des doutes sur sa réalité. Puisque de toute façon, cette réalité, elle est écrite du 0 jusqu'au 1 par des machines que lui manipule aussi, donc il en connaît le fonctionnement. Donc encore heureux finalement que bah, qu'il ait ce métier et qu'il ait cette double vie, parce que c'est ce qui lui permet de se poser les bonnes questions existentielles. En gros, quand tu connais les lois et la structure de ton monde, tu peux le maîtriser, puisque tu en connais les lois. Et c'est exactement ce qui se passe pour Thomas Anderson avant qu'il devienne Néo.
Je pense qu'il y a
oui, mais énormément. Tu me lances une réplique, je te fais une demi-heure.
On va quand même passer à la suite parce que le temps tourne et déjà.
Mince.
Oh là là, dis donc. Et donc, ça va être à Septem de prendre la suite. Et donc, tu vas nous parler du meurtre de Roger Aykroyd. Comment on lit ? Je sais pas du tout. Aykroyd, ouais.
Aykroyd. Ouais. Alors voilà, moi on va quitter les bancs philosophiques. Est-ce que vous l'avez
non,
lu ?
Non, pas du tout.
Ou, du coup, celui-là.
Le nom me dit quelque chose.
J'ai lu Dix petits nègres. Ouais.
Donc c'est le troisième roman d'Agatha Christie, ça a été publié en 1924, et bientôt 100 ans, mine de rien. On est, pour vous situer, les Sherlock Holmes par exemple, ça avait commencé en 1887, donc ça se passe quand même bien, enfin ouais. C'est écrit quand même bien 40 ans après le début de cette idée du détective dans les bouquins, même si le roman policier est plus ancien. Donc le meurtre de Roger Aykroyd, c'est seulement donc le troisième d'Agatha Christie, et c'est très surprenant puisque, mine de rien, c'est peut-être pas le plus connu, on connaît beaucoup les Dix petits nègres, ABC contre Poirot, etc. Et pourtant, celui-là a vraiment une saveur particulière. C'est une histoire d'Hercule Poirot, donc, qui, une fois n'est pas coutume, est à la retraite au début du livre. Et il se trouve, évidemment, à côté d'un petit village où il y a un meurtre. En l'occurrence, Roger Aykroyd, on le sait dès le départ. Au début, c'est très simple. En fait, il y a un docteur qui s'appelle le docteur Shepard, qui est le narrateur pendant tout le livre, qui découvre Roger Aykroyd mort chez lui, enfin chez Roger Aykroyd, poignardé dans la nuque. Et la police commence son enquête. Hercule Poirot est dans les parages, donc fatalement il vient fourrer son nez dedans. Agatha Christie, comme elle a l'habitude de le faire, multiplie beaucoup les personnages secondaires. Il y a vraiment, on a le droit à la sœur de Roger Aykroyd, la nièce de Roger Aykroyd, l'ami, le personnel de maison, on a le maître d'hôtel, la femme de chambre, la gouvernante, etc. etc. Ça se multiplie. Ce qui a pour effet en fait de ne pas faire vraiment avancer l'enquête. Comme toujours, il y a plein de petites pistes qui sont lancées. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le médecin, docteur Shepard, donc, aide vraiment Hercule Poirot à enquêter. On est un peu dans le même schéma que quand
c'est
on a...
C'est le sidekick pour
voilà.
un bouquin.
Ouais. Mais juste pour un bouquin, on est un peu dans le même schéma que Watson avec le Sherlock Holmes, sauf que là, c'est vraiment que pour ce livre-là. Et voilà, donc... petit à petit, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Hercule Poirot, enfin, ce qui est très étonnant plutôt au départ, Hercule Poirot s'intéresse, on a l'habitude de le voir s'intéresser à des détails qui semblent insignifiants, mais là, on a l'impression qu'il est en train d'écrire un magazine People sur la petite bourgade. C'est-à-dire qu'il va demander qui a déplacé un petit objet, qui est marié, pourquoi est-ce qu'il y a une paire de chaussures qui a bougé, qui voit qui couche avec qui presque. C'est vraiment très très... on a l'impression qu'il est en train d'écrire Closer. Le dénouement se fait en fait, donc comme toujours au dernier chapitre, ce qui se passe c'est que Hercule Poirot, on le voit aussi beaucoup après, réunit tous les personnages qu'on a eus dans une pièce et commence à utiliser ses petites cellules grises, comme il aime à le dire, en reprenant chaque point qui nous a fait penser que quelqu'un était peut-être coupable, donc on a eu en nous démontrant pourquoi ils ne le sont pas. Évidemment, on découvre des trucs fous, on a des enfants cachés qui arrivent, des drogués qui sont là parce qu'ils essaient d'avoir effectivement la drogue chez le docteur. Enfin, c'est très ça part un petit peu dans tous les sens à ce moment-là. Des gens qui ont des liaisons, des gens qui sont mariés alors que leurs fils ne le savent même pas. Enfin, c'est vraiment elle va jusqu'au bout de son truc.
C'est un petit secret, quoi.
Voilà. Et il fait surtout le point le plus important à ce moment-là, c'est qu'il montre que l'heure à laquelle on pensait que le meurtre avait eu lieu est fausse, puisque, attention là c'est technologique, la voix de Roger Aykroyd que sa servante avait entendue aux alentours de 10h du matin, était en fait sur un dictaphone. Donc la technologie, ça fait
Dictaphone.
peur. Oui, un dictaphone. Ce qui prouve que l'heure n'est pas la bonne. Et finalement, il renvoie tous les gens de cette réunion, et c'est là que le Mindfuck va intervenir.
Je devine.
Oui, ben c'est facile maintenant. Il envoie tout le monde, mais qu'est-ce qu'il raconte depuis le début et qui peut donc nous raconter qu'il a renvoyé tout le monde?
Docteur
C'est le
Shepard.
docteur Shepard, et en fait, on se rend compte que c'est le docteur Shepard qui nous raconte l'histoire depuis le début, qui a tué Roger Ackroyd. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Unreliable Narrator, donc le narrateur auquel on ne peut pas faire confiance. Et c'était assez novateur pour l'époque, ça a surpris beaucoup de monde, parce que je vous rappelle, on est en 1924, ce genre de petite histoire-là, très inhabituelle. C'était là que le mindfuck était total, parce qu'il y a toujours ce petit côté dans tous les policiers, normalement, où on arrive, quand ils sont bien, très bien faits, ce qui est assez souvent le cas avec Agatha Christie, même si ça devient un peu classique pour notre époque, on ne sait pas vraiment forcément qui a tué, donc quand on le découvre, on est un peu abasourdi. Mais là, on découvre qu'on s'est fait mener en bateau depuis le début, puisque fatalement, même quand on nous a donné dès le départ l'heure de 10h du matin, en nous en pensant qu'elle était juste, et en nous en pensant que la personne qui nous l'a donnée la pensait juste, en fait, elle la savait déjà fausse. Ce qui est très drôle, c'est que tu as dit, je devine à la toute fin. Et moi, quand j'ai lu le bouquin, c'était un petit moment. C'était une période où je lisais beaucoup, beaucoup de policiers. J'ai fait un bon tour chez Sir Arthur Conan Doyle et chez Agatha Christie. Et arrivé au milieu, aux trois quarts du bouquin, je me suis dit, ce serait génial si on faisait un livre où le narrateur, c'était en fait le meurtrier. Et j'arrive au dernier chapitre et je me dis, bon, bah, apparemment, elle y a pensé 80 ans avant moi, donc j'ai peut-être pas la peine. Faut croire. Mais là, honnêtement, c'était vraiment. Moi, ça m'a étonné parce que on puisse écrire. Enfin, c'est quand même son troisième livre seulement. C'est pas comme si c'était un écrivain averti qui essaye de renouveler son genre vraiment. Là, au bout de son troisième livre, elle a déjà un twist qui est assez fort, en fait. On le retrouve assez rarement. Et le mindfuck est total quand on le découvre.
Mais tu
Oh,
l'as
bah,
lu il y
tu
a
dis non.
longtemps ou ouais?
Alors moi, la première fois que je l'ai lu, ça va faire peut-être pas loin de 10 ans maintenant, mais je pense que ça perd pas trop trop de sa saveur. Et il y a comme bon, maintenant, même quand tu connais la fin, en fait, moi j'ai lu plein d'Agatha Christie où je connaissais déjà la fin parce que c'est difficile d'éviter les spoilers sur des livres qui datent de
Ouais.
cette époque, mais le plaisir est intact parce que du coup, comme quand tu revois Memento par exemple, quand tu revois Matrix, t'essayes de voir s'il n'y a pas des petits trucs déjà te font penser qu'en fait on est en train de te mener en bateau.
Tu t'anticipes plus à la deuxième lecture, quoi.
Tu vois d'autres choses, je pense, tout comme tous les autres mindfuck qu'on vient de parler, à chaque fois c'est des trucs à lecture multiple.
Il y a plusieurs niveaux de lecture à chaque fois, ouais.
Ouais, puis alors celui-ci, maintenant que tu en as reparlé, je m'en suis souvenu, où je l'ai lu aussi il y a quelques années, mais c'est vrai que en plus je trouve que dans sa bibliographie, c'est sûrement un des plus décalés dans le style.
Ouais.
Oui, c'est pour ça que c'est assez étonnant que ce soit aussi peu connu. En fait, c'est comme quand Les Dix Nègres, c'était un peu pareil, puisque enfin, je sais pas si vous l'avez lu, mais je présume que oui, et qu'on peut y aller. C'est pareil, là, on nous mène aussi un petit peu en bateau, mais d'une façon différente, puisqu'on pense le meurtrier mort, et il est révélé qu'au dernier chapitre, qui est en fait une de ses lettres, que c'était une feinte, et comme là la narration suit uniquement les survivants. C'est logique que nous on se fasse avoir aussi. Et pourtant, Les Dix Petits Nègres, lui, est beaucoup plus connu. Et le meurtre de Roger Ackroyd, moins. Alors que le Mindfuck est aussi surprenant, presque.
Dix Petits Nègres, ouais, vas-y, vas-y.
Excuse-moi, je t'en prie, vas-y.
Non, c'était juste que Dix Petits Nègres, j'ai le souvenir d'un livre, c'est un des livres qui m'a fait vraiment peur, parce que je l'ai lu très jeune, et je me souviens d'une scène dans le livre où tout le monde est supposé mort, et on voit, le personnage voit en dessous la porte des traînées de lumière de quelqu'un qui passe dans le couloir, et je me souviens c'était vraiment presque traumatisant à l'époque, quoi. Je me souviens, je sais pas, ça m'a vraiment marqué, quoi.
Voilà, oui, ouais. Alors, juste pour un petit truc par rapport au Dix Petits Nègres aussi, puisque donc à la fin des Petits Nègres, c'est une lettre du meurtrier qui nous révèle toute l'astuce. Là, c'était un peu. Là, c'est pas exactement pareil, mais on n'est pas loin. Puisque en fait, le docteur Shepard avait prévu de raconter l'histoire telle qu'on la lit, en espérant être le premier à mettre en échec Hercule Poirot. Et la fin, et finalement, donc c'est pas le cas, à la fin, Et ça, c'est un peu comme dans Les Petits Nègres, ça fait un peu précurseur. Il se suicide. C'est soit ça, soit en prison, et que Hercule Poirot lui laisse le choix par égard pour sa sœur. Enfin, donc voilà, encore une fin. Déjà, en fait, elle avait Agatha Christie avait cette idée-là du meurtrier qui raconte à la fin une lettre avant de se suicider.
Ouais, excuse-moi, pardon. J'avais cru lire une critique à propos des Petits Nègres que les gens avaient détesté. Enfin, les critiques à l'époque lui avaient cartonné en disant non, mais c'est trop facile. Tu peux pas ne pas donner les éléments au lecteur pour qu'il trouve tout seul.
Ouais, c'est vrai que c'était
frustrant. Ça a fait pas mal de bruit sur les Petits Nègres. Alors là, du coup, j'ai été retourné voir un peu sur. Apparemment, ça n'a pas été le cas pour la
scène. Non, ça a été très bien accueilli, le meurtre de Jacques Roy, au contraire, ouais.
C'est vraiment marrant ça, parce que au niveau formel, ils sont pas tout à fait identiques, mais il y a la même façon de tromper le lecteur, quoi. C'est parce que j'ai pas la bibliographie du tout là pour le coup. Je sais pas lequel était en premier.
C'est Le Meurtre de Jacques Roy était en premier puisque c'est son troisième roman, mais Les Diptynex c'est 9, donc c'est 15 ans après.
Ah ouais. C'est marrant ça, dis donc.
Enfin, 13 ans après, pardon.
Telle voilà. Période.
Oui, c'est vrai que c'est étonnant du coup que, mais c'est un tout petit peu différent parce que. Dans les Dix Petits Nègres, on suit les survivants et donc on a les éléments des survivants, alors que dans Le Meurtre de Roger Ackroyd, on se fait avoir par le narrateur lui-même. Et je pense que c'est pour ça que ça a été reçu aussi différemment. Parce que y a un personnage qui est le narrateur qui lui nous mène en bateau, alors que dans les Dix Petits Nègres, c'est la narration de la romancière qui nous mène en bateau. C'est peut-être pour ça que la perception a été différente.
Autre chose à dire sur
deux petites choses. Si je peux, c'est je coupe personne. On se souvient surtout d'Agatha Christie comme vraiment maîtresse du polar, surtout inventer le mindfuck et le twist. D'ailleurs, quand j'apprenais l'anglais en cours, on m'avait parlé d'une pièce qui était représentée en Angleterre depuis je sais pas combien d'années, qui s'appelle The Mouse Trap, la souricière. Et en fait, un des contrats entre guillemets quand tu venais regarder cette pièce, c'était de ne pas révéler le twist. Là, je suis en train de regarder sur Wikipédia. Une des dernières répliques de la pièce, c'est un policier qui va la dire. Cher spectateur, complice du crime, merci d'être venu et de ne pas révéler l'identité du meurtrier. Il y a vraiment un caractère sacré à la solution et au twist et au mindfuck. Et c'est vraiment une des reines, une des plus grandes. Je vais pas dire inventrice, ça n'existe pas, mais inventeur de ce genre de situation. Et une deuxième chose, on parle de mindfuck et d'astuces, je vais partir sur Alfred Hitchcock, qui a sorti en 1950 un film qui s'appelle Le Grand Alibi, Stage Fright en version originale. Le film est vraiment pas mal, je vous le conseille à l'occasion, il y a pas mal de coffrets qui le contiennent, mais il a eu un grand regret dans ce film, et c'est bizarre parce que c'est justement le point de détail qui porte tout le film et qui fait le basculement du film. Dans le film, Hitchcock utilise un flashback au tout début du film. On est dans les années 50, ça commence à se mettre en place ce genre de procédé de réalisation. Et en fait, ce flashback est faux. Ce n'est pas un flashback réel qui montre la vérité, c'est un flashback menteur. Et ça lui a été énormément reproché à l'époque. Parce que quand tu regardes le film, tu te fies à ce flashback. Pour toi, un flashback, c'est la vérité. N'aime pas du tout.
Les gens n'aiment pas
du
qu'on
tout.
Joue avec
ça lui était
ça,
extrêmement ça. Reproché. Alors bon, désolé, je vous ai spoilé le film.
Non, parce que ça reste intéressant de le voir, même en le sachant, en fait.
C'est un petit détail. Alors que maintenant, si on peut faire des flashbacks faux, mais on aurait réutilisé une autre astuce de réalisation. Par exemple, si on dit que le flashback, en fait, c'était en plein milieu de la nuit, on aurait fait un flashback à 8h du matin, par exemple. Si on va dire que la personne dans le flashback, normalement, on est en train de discuter avec la personne, on nous a dit, on est arrivé deux à la porte, ben, en fait, dans le flashback, la personne va être seule. On va toujours essayer de laisser un élément pour faire deviner au spectateur qu'il y a un problème. Alors que là, Délan Flair, par exemple, là c'est un autre problème plus psychologique. Mais c'est une astuce qui est vraiment très 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 importante et qui marque encore les débuts de la réalisation et surtout comment on peut s'amuser avec la vision, comment on peut s'amuser avec la réalité. Et là tu as un lien avec Matrix.
Très bien. Avant de terminer, je voudrais si vous avez quelques mindfuck à conseiller, est-ce que si vous en avez en tête là.
Oh la vache.
Ah oui.
Oui.
Avalon. J'aimerais bien. Enfin, je sais pas. J'aimerais bien. Je le conseille très fortement. Mister Nobody aussi un petit peu. Et Old Boy. Je pense qu'on peut dire que c'est un mindfuck. Et je pense que peut-être Cube, mais ça commence à dater, donc.
Peut-être un peu moins.
À l'époque, oui, je pense. Maintenant, peut-être plus. Et voilà, j'ai plus rien d'autre en tête.
Arnaud, Septem, vous en avez en tête?
Purement des mindfuck? Non, pas vraiment. Après, j'ai des mauvais films, mais c'est pas pareil.
Ah. On va éviter peut-être les mauvais films, alors.
Ouais.
Peut-être s'intéresser qu'au bon.
Mais des mauvais films qui te retournent quand même l'esprit.
Ouais.
Genre... Ouais, mais c'est pas dans le bon sens.
Ok, voilà.
Barbeau, c'est en tête,
bah, déjà tous les films de Park Chan-wook, donc Old Boy, Sympathy for Lady Vengeance et Mister Vengeance, je pense que c'est Mindfuck et puis ça te retourne la tête. Et le premier qui me revient en tête, ça va être Silent Hill Shattered Memories sur Wii. Bon, ok, c'est un jeu sur Wii, ok, d'accord, voilà. Mais la fin te retourne complètement la tête. Elle est très 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 bien amenée.
La saga de jeux vidéo aussi.
C'est le premier qui me revient en tête pour l'instant.
Moi j'avais Usual Suspects.
Ah ouais. Mais c'est pas. C'est en mindfuck ça.
Bah écoute, la fin.
C'est un super twist plutôt, non?
Ah bah oui, c'est vrai que c'est un super twist, mais c'est vrai qu'à la fin, quand tu te rends compte du twist, je pense que t'as envie de revoir le film pour voir tous les détails qui sont passés à la trappe. Brasil aussi, Brasil. Dans son genre, surtout pour la scène de fin. Et Slevin, je sais pas si vous connaissez, qui est. C'est pas un film exceptionnel, mais je trouvais sympa
très sympathique,
dans son dénouement. Ouais, je trouvais plus.
Il y a les premiers Shyamalan aussi.
Ouais,
le dernier, on va les oublier un peu, mais.
Ouais.
Si tu mets ça dans les Mindfuck, je conseille le premier, l'original, le Texas Chainsaw Massacre, Massacre à la tronçonneuse. Parce que le premier film, il est juste. C'est hallucinant. C'est vraiment halluciné, même. Voilà.
Très bien. Je vous propose de passer à la conclusion. Alors, merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a donné envie de revoir ces œuvres, ou enfin de les voir ou de les revoir. Pour les invités, alors, où est-ce qu'on vous retrouve? Actarus, on va commencer par toi.
Moi, on me retrouve pas.
Ah, bon. Alors, Arnaud.
Moi, on me retrouve sur Twitter. @ARNODOUCET.
Ouais.
On me retrouve aussi donc, sur le podcast des Frangins Doucet, Adore, ouais. Barberousse, Le Broclash. Et puis peut-être bientôt sur un ou deux nouveaux podcasts qui devraient arriver.
Ah, intéressant. Donc, alors, Actarus. Oh, mais si tu veux.
On peut être social.
Si on peut trouver sur Twitter.
Oui, donc sur Twitter, je sais plus si c'est Actarus ou Actarus le Prince.
Actarus le Prince.
Merci. Merci d'être ma mémoire. Donc voilà, Actarus le Prince. Et sinon, on me retrouve avec une équipe de tarés qui sommes en train de faire un jeu qui s'appelle Space Origin. Et sur Twitter, on nous retrouve aussi à Space _ Origin. Ou alors vous tapez Space Origin dans Google, on est partout et on fait plein de conneries. Voilà.
Septem.
Ben moi, on me retrouve sur Twitter aussi, SAEPTEM.
Ouais.
Sinon sur septem.fr aussi, où je fais un podcast toutes les semaines, un podcast musical.
Ouais. Avec ton bonsoir.
Avec mon bonsoir que tu as d'un. Et tu n'es pas le seul, je crois. Voilà, sinon bientôt peut-être un nouveau truc avec la Mixotrope, mais ce n'est pas fait encore.
Ah, Mixotrope qu'on salue au passage. Barberousse.
Oui, alors juste très 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 rapidement, Perfect Blue de Satoshi Kon. Voilà, il fallait au moins se dire.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors moi, on me retrouve sur Twitter, en plein endroit, sur Facebook, et puis dans Queen Novi avec toi de temps en temps.
Comme ce soir, d'ailleurs.
Ce soir, juste avant.
Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @péremptoire, ou sur @les éclaireurs, donc les_éclaireurs avec un S, bien sûr, sur www.leséclaireurspodcast.com, le flux RSS et tout ça. Enfin, cherchez sur Google, et si vous ne tombez pas sur un site avec les éclaireurs et les scouts, trouvez quelque chose. On va se quitter avec la BO tirée de Brasil de Geoff Mulder. Donc on se dit à dans 2 semaines et d'ici là.
Attends. Je peux rajouter quelque chose?
Ouais.
Merci. Donc comme c'était Barbarousse qui disait qu'on n'avait pas assez parlé d'anime, oui. C'est ça?
Vas-y.
Ouais. Ben. Donc, vu qu'on a parlé de mindfuck, je trouve ça un peu dommage de parler de l'esprit et de ne pas parler du cœur, le cœur et l'esprit, le cœur et la raison, tout ça.
Captain Planet.
Et donc forcément, pour parler, non du tout, pour parler de Earthfuck au lieu de mindfuck, je parlerai de Rémi sans famille. Voilà,
Oh,
parce que c'est le dessin animé qui te
débarrassement.
retourne le cœur.
Débarrassement.
Mais ça suffit
Non,
la tristesse, là.
cette dépression qui nous guette.
Et puis voilà, c'est tout. C'est que j'avais pas assez dit de conneries, j'ai dit que de la philosophie et des analyses un peu intéressantes, et du coup
Oh,
ça me
c'est un
manquait.
petit peu platonique ce soir.
Tu t'es gavé.
Allez, on va se quitter avec Brésil de Geoff Muldaur. Et d'ici là, cultivez-vous bien et à dans 2 semaines.
Salut.
Salut!
Au revoir.